Dans cette séquence, nous allons introduire notre conception d'une ville comme système dans un système de ville en nous appuyant sur les principes les plus généraux de l'organisation du fait urbain dans l'espace géographique. Qu'est-ce qu'une ville? Si on interroge la plupart des personnes sur ce thème, elles vont répondre que c'est une forte concentration de peuplement, plus importante que ce qu'on observe dans la campagne, qu'un seuil de population relativement élevé mais variable définit le rassemblement que constitue une ville. Et elles vont remarquer aussi que les sociétés urbaines sont plus diverses en termes de fonctions, en termes de mode de vie, en termes de culture que celles des campagnes. Et puis que l'habitat y est organisé à la fois par des réseaux techniques, dont certains sont très visibles comme les réseaux de transport, d'autres plus souterrains comme ceux de fibre optique ou d'assainissement, d'approvisionnement en eau. Et il y a également des réseaux politiques, la gouvernance urbaine qui réunit l'ensemble des acteurs qui président aux destinées des villes. Néanmoins, les personnes sont frappées souvent par la très grande diversité des apparences morphologiques urbaines, ce qui fonde en grande partie le charme des villes. Mais on opposera volontiers les grandes nappes de lotissement de maisons individuelles aux États-Unis, comme ce qui apparaît sur cette photographie aérienne, aux grandes tours de résidence des villes chinoises, aux centres-villes préservés et de petites maisons basses et très typiques de certaines villes européennes. Et puis, dans la plupart des villes, on a évidemment des urbanismes qui concentrent ces différentes formes de construction urbaine. Mais la construction dont nous allons parler est scientifique, elle est conceptuelle, et chaque discipline qui s'occupe de la ville ou de l'urbain apporte sa contribution, sa touche particulière à cette définition. En droit, en histoire, en sciences politiques, on fait remarquer que la ville est un groupe de dimensions bien supérieures à celui de la famille ou de la tribu et qui donc organise par des règles, par des normes, des institutions, une population plus importante. Et l'on met en avant l'organisation particulière aux villes grecques, la police, les chartes urbaines des villes du Moyen-Âge. On disait que l'aire de la ville rend libre, précisément en raison des droits qui étaient attachés au statut des personnes, les habitants. On pense aux villes-états, comme la Florence des Médicis, par exemple, et puis aux bourgeoisies de l'époque industrielle, à l'administration urbaine et qui aujourd'hui oblige à constituer des intercommunalités pour gérer les plus grandes des métropoles. Dans la discipline économique, la ville apparaît d'abord comme un lieu où se construisent des économies d'agglomération. On entend par là à la fois les économies externes que réalisent des entreprises plus grandes, mais surtout des économies d'urbanisation qui sont permises par l'utilisation indivise par plusieurs acteurs des grandes infrastructures qui caractérisent la ville, de l'ensemble de ses aménités. Et on met aussi sous cette appellation tout ce qui construit des rendements croissants qui restent encore mystérieux pour l'économie traditionnelle. En sociologie, en ethnologie, en histoire, on va mettre l'accent aussi sur le fait que la ville est un lieu d'invention, ou plus exactement d'innovation sociale, c'est-à-dire des inventions socialement acceptées, qui se traduisent par la similitude qu'on opère assez souvent sur la longue durée entre les villes et la civilisation, sur le processus de division sociale du travail qui progressivement a multiplié les formes de spécialisation des personnes et des entreprises, sur tous les apprentissages qui s'effectuent à l'intérieur de la ville et qui permettent les hybridations culturelles, les métissages qui font toute la complexité du milieu social urbain d'aujourd'hui. En géographie, on s'intéresse à la spatialité des sociétés, à la manière dont elles aménagent l'espace pour permettre aux habitants de vivre, et on met l'accent sur la définition du fait urbain à deux niveaux, à deux échelons spatiaux de l'organisation des sociétés. Celui de la ville, qui apparaît comme un lieu central, un lieu de concentration, de polarisation des flux pour l'attraction et la diffusion de toute forme d'activité et d'innovation. Mais la ville, c'est aussi un système dans un système de ville, c'est-à-dire qu'au niveau du territoire des régions ou des pays, eh bien, on a des villes qui sont organisées en système. Cette forme de construction scientifique suppose que l'on ait défini très précisément, pour pouvoir la mesurer, ce qu'on entend par ville. Et cela suppose deux étapes. D'abord, définir ce qu'on entend par population urbaine. Et les définitions sont loin d'être harmonisées suivant les pays et les systèmes statistiques. On va considérer que la population urbaine est définie par un statut juridique ou administratif, ou bien qu'on devient une population urbaine à partir d'un certain seuil aussi variable que 200 ou 300 habitants au Danemark et jusqu'à 50 000 habitants au Japon. Ou bien on va mélanger des critères multiples de définition, incluant le fait, par exemple, que les activités exercées sont non agricoles. Mais définir la ville, c'est aussi délimiter géographiquement des entités urbaines et significatives. Et dans un pays comme la France, dont les communes, le découpage administratif initial est très petit, cela n'a pas grand sens de parler de ville seulement dans le cadre de la commune, à moins qu'on s'intéresse précisément à la gouvernance politique, par exemple, ou à la fiscalité. En revanche, on va beaucoup plus souvent considérer comme des entités significatives géographiquement les agglomérations morphologiques bâties en continuité et qui, elles, peuvent s'étendre sur plusieurs communes, ou bien encore les régions urbaines fonctionnelles, les aires urbaines définies en France par les navettes domicile-travail et qui réunissent donc dans un même système des communes où on réside et on travaille ensemble. Nous avons sur cette carte la commune de Toulouse en vert foncé au centre, et puis en rouge l'agglomération morphologique de bâti continu sur donc les communes qui dites de banlieue autour de la ville de Toulouse. Et en vert foncé, nous avons d'autres communes qui sont les communes de l'aire urbaine, où environ 40% de la population active chaque jour viennent travailler dans une des communes du pôle central de l'agglomération. Il est important d'effectuer ces délimitations et de les réviser périodiquement, puisque ici, sur une durée d'une quinzaine d'années, vous voyez que le bâti représenté en rouge dans cette zone urbaine toulousaine s'est considérablement étendu, en particulier dans l'espace périurbain relativement lointain. À un autre niveau de l'espace géographique, les villes continuent à structurer l'espace. Elles sont relativement régulièrement espacées. Vous avez là les aires urbaines bretonnes qui, sur le pourtour du littoral, se marquent des lieux plus fortement urbanisés. Et nous avons également à l'intérieur de la région, dans les parties plus campagnardes, des petits pôles de services qui polarisent les flux des clients, des consommateurs ou des navetteurs. Ces deux niveaux de spatialité, on peut les formaliser en termes de systèmes complexes comme correspondant à l'émergence de certaines propriétés de l'espace géographique, propriétés qui ne peuvent pas être attribuées comme descripteurs à chacun des acteurs, ménages, institutions, entreprises qui constituent les résidents d'une ville, mais qui appartiennent à la collectivité qu'ils forment et qu'ils ont construites par leurs interactions. Ce sont les acteurs qui, ensemble, vont définir un lieu comme central, ayant certaines fonctions industrielles, de services touristiques, une morphologie urbaine particulière et même des ambiances qui combinent des faits matériels et des sensations subjectives données par un degré d'ouverture, d'aération plus ou moins important de la ville. Cette ville, on peut la définir pour la comparer entre des pays différents ou l'observer sur des durées assez longues comme étant l'enveloppe des activités quotidiennes des résidents. Et la dimension qui la définirait serait de l'ordre de 1 heure de trajet en moyenne pour connecter l'ensemble des lieux qui sont ainsi mis en interaction forte à l'intérieur de la ville. Ce qu'on perçoit souvent moins bien, c'est que à un autre niveau, à une autre échelle géographique, qui correspondrait à peu près, là aussi toujours pour comparer dans le temps et dans l'espace, à la durée d'un jour de voyage aller-retour, et qui réunirait par exemple dans un même système de ville aujourd'hui l'ensemble des agglomérations urbaines de plus de 200 000 habitants en Europe, eh bien à ce niveau-là, on a également émergence de propriétés du fait des interactions entre les villes qui les ont rendues interdépendantes et qui font qu'elles sont très différenciées par la taille, par des fonctions complémentaires et une trame spatiale relativement régulière. En effet, si l'on schématise, on peut considérer que la ville est le lieu, le système des interactions au quotidien, donc déterminé dans son étendue maximale par cette heure de trajet. Dite encore loi de Zahavi, qui serait le temps critique permettant de définir l'enveloppe d'espace-temps que constitue la ville. Ces interactions s'effectuant par des réseaux à vitesse relativement lente, qui n'ont été multipliés, dont la vitesse n'a été multipliée que par 5 depuis la motorisation, depuis 200 ans, mais avec des interactions très fortes, puisque chaque personne, qu'on soit dans un pays développé ou dans un pays en développement, chaque personne va visiter en moyenne 3 à 4 lieux différents par jour pour remplir ses différentes activités. Et cela suffit à engendrer une structure de ce système extrêmement générale, un gradient centre-périphérie, avec davantage d'activités et de populations dans les centres et moins dans les périphéries. Et puis aussi un zonage fonctionnel, des ségrégations spatiales entre différentes catégories de population. À l'autre niveau, le système des villes contrôle à distance des territoires et des réseaux d'entreprises, par exemple. La durée critique est de l'ordre de 1 journée. Déjà, Élisée Reclus mentionnait au milieu du 19e siècle ce jalon pour comprendre l'espacement moyen des villes de l'ordre de 10 à 12 km pour les déplacements de l'époque effectués souvent à cheval, en partie en train à faible vitesse. Ici, la vitesse de circulation a considérablement augmenté en 200 ans. Elle a été multipliée par un facteur de l'ordre de 40 avec jusqu'à aujourd'hui les trains à grande vitesse et les avions. Et certes, les interactions sont moins fréquentes pour chaque individu. On ne se déplace pas quotidiennement, très, très rarement, pour visiter les villes à l'intérieur d'un système de villes. Mais cela suffit à engendrer des propriétés émergentes très fortes, comme cette structuration hiérarchique, cette diversité fonctionnelle et la régularité des trames spatiales que nous allons étudier. Donc, un système de villes, pour nous, c'est un ensemble de villes dont les évolutions sont rendues cohérentes, interdépendantes, par les multiples interactions qu'elles ont entre elles, des échanges, des réseaux et des relations de concurrence et de complémentarité. Retenons que les villes et les systèmes de villes ont une grande valeur dans nos sociétés, puisque nous avons des lieux attractifs qui atteignent des dimensions de densité 10 à 10 000 fois plus grandes que celles des campagnes environnantes, des prix fonciers et immobiliers qui sont au moins toujours 10 fois supérieurs à ceux de l'espace voisin, des faits de capitalisation, d'accumulation de richesses qui parfois pour les plus grandes villes les rendent équivalentes à des États, à des petits États ou à des grandes multinationales. Et puis, ces villes et ces systèmes de villes, ce sont aussi des adaptateurs sociaux aux changements économiques, ce sont des créateurs et des diffuseurs des innovations de tout genre, politiques, techniques, sociales, culturelles. Et ce sont aussi des lieux extrêmement résilients, puisque ces systèmes de villes, nous les observons depuis l'Antiquité, et les localisations de beaucoup de villes ont des durées et des identités pluriséculaires, voire plurimillénaires. En conclusion, donc, villes et systèmes de villes sont des inventions en partie dirigées, mais aussi largement auto-organisées, qui manifestent une intelligence collective, humaine et sociale.